La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles, merci de nous rejoindre comme chaque samedi soir pour 30 minutes de débat. Bienvenue dans Libre Ensemble.
Libre Ensemble, Catherine Hack, Jacques Nizan.
Que faites-vous le matin du 10 décembre chaque année? Eh bien, comme beaucoup sans doute, vous allumez votre bougie. Pour commémorer quoi? Eh bien, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Fondement du droit international relatif aux droits de l'homme, cette Déclaration universelle, document le plus traduit dans le monde, plus de 380 langues, est-elle réellement universelle et surtout, est-elle respectée ici chez nous en 2017? En 2018, l'an prochain, la pas si vieille dame que cela aura 70 ans. Alors comment se porte-t-elle? C'est de cela dont nous allons parler ce soir avec Vanessa Degrève. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, docteur en droit à l'ULB et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Alexandre Seron, bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Vous êtes-vous directeur campagne chez Médecins du Monde? Et enfin le petit jeune autour de la table, Martin Nera, vice-président de l'APNU Jeune. L'APNU, c'est l'association pour les Nations Unies. Vous allez nous dire dans quelques instants de quoi il retourne.
Bonsoir.
Bonsoir Martin. Alors Vanessa, je voudrais d'abord replanter un peu le décor et le contexte historique. Quel fut ce contexte géopolitique et historique justement de 1948 à la signature de cette fameuse et belle Déclaration universelle des droits de l'homme?
Alors à cette époque-là, donc on sortait de la Seconde Guerre mondiale et la toute jeune Organisation des Nations Unies commençait à travailler sur ce texte. Alors il faut savoir que seuls 48 des 56 États que comptait cette organisation ont signé ce texte et ont adopté ce texte. Ce qui montre aussi que tout le monde ne voulait pas non plus, ne faisait pas l'unanimité. Et alors son caractère universel, alors en même temps était extrêmement important pour cette organisation, mais a mis, je dirais quand même, une petite vingtaine d'années, 15 à 20 ans, pour véritablement aboutir à une adhésion de pas mal d'États. C'est-à-dire qu'au lendemain en fait, de l'adhésion de ces États à la déclaration, tous ont plus ou moins adopté d'autres instruments régionaux pour montrer leurs spécificités culturelles, régionales, et pour quelque part un petit peu se démarquer à cette époque-là de ce caractère universel qui existait dans cette déclaration. Et alors on peut dire que vers la fin des années 60, là il y a deux pactes internationaux qui reprennent véritablement les dispositions de cette déclaration, donnant du coup une valeur beaucoup plus contraignante à cette déclaration que ce qu'elle avait à cette époque-là. Et alors, ensuite, le référent des droits de l'homme n'a fait que grandir. Je dis bien le référent, pas le respect.
Alors, cette Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas un traité à l'époque. Donc, elle n'est pas ratifiée par les pays, mais adoptée. C'est encore le cas aujourd'hui?
Alors, ça reste du droit déclaratoire, cette déclaration. Donc, elle n'a pas une force contraignante très élevée, si ce n'est que comme certains instruments se réfèrent directement à elle, elle inspire, si vous voulez, on doit quand même se référer à cette déclaration pour vérifier quelle est la bonne interprétation. Mais cette déclaration n'est pas... Elle est extrêmement importante, je ne peux pas dire le contraire, vu que la Ligue des droits de l'homme se réfère évidemment à cette déclaration. Il faut quand même souligner qu'à cette époque, par exemple, la sécurité sociale était toute jeune, elle était en construction, et en fait, on ne voulait pas donner une valeur très contraignante non plus, par exemple, aux droits économiques, sociaux et culturels à la fin des années 40. On sait que, voilà, entre les années 50 et 80, on a vraiment vu la sécurité sociale se construire et les droits économiques sociaux beaucoup plus rendus beaucoup plus effectifs jusqu'à, je dirais, ces 20 dernières années où on revoit le déclin progressif de ces droits. Donc tout ça pour dire que cette déclaration, c'est un très très bel instrument. À l'époque, par exemple, il y avait des débats très très vifs. Les États-Unis considéraient que c'était du totalitarisme soviétique que d'inscrire dans une déclaration des droits économiques, sociaux et culturels pour quand même montrer quels étaient les droits les plus importants à cette époque-là. Donc il y a quand même des choses qui ont évolué heureusement depuis. Et puis il y a des régressions qui ont lieu aussi.
Et puis le côté universel aussi a été parfois jugé un peu sévèrement. Rappelons qu'à l'époque, la plupart des pays du Sud étaient encore sous domination coloniale, donc parfois on disait que c'était une vision du blanc qui était imposée au reste du monde, notamment de l'Occident. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ça?
Alors, bon, les empires coloniaux étaient en effet entiers. Alors, la question n'était pas évidente, parce qu'en même temps, certains États, du coup, n'ont pas adhéré à cette déclaration, précisément parce que eux étaient des empires coloniaux. Donc ils ne voulaient pas que cette déclaration universelle soit utilisée contre eux.
Contre eux, pour mettre fin à leur empire, évidemment.
Donc il y avait un peu. Et alors d'un autre côté, en même temps, la déclaration, c'est vrai qu'elle était jugée comme étant trop occidentalo-centrée, et en estimant en effet qu'elle reflétait trop les traditions françaises et anglo-saxonnes et américaines, ce qui n'était pas totalement faux, ce qui fait que parfois il y a une charte africaine qui a été prise assez rapidement, finalement, après cette déclaration universelle des droits de l'homme, pour se démarquer de cet esprit peut-être, en effet plus sélectif, même si on retrouve quand même aussi dans ces autres instruments quand même des dispositions importantes de la déclaration. Donc ce n'est pas comme si c'était tout blanc et tout noir pour jouer sur la thématique que vous proposez.
Tout blanc et tout noir. Voilà. Mais ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'évidemment en Belgique elle est respectée, mais pas tellement que cela. On s'aperçoit qu'en 2017, et puis en 2018, l'année prochaine elle aura 70 ans, eh bien elle n'est pas tant que cela chez nous respectée. Et il y a pas mal de problèmes, en tout cas, à la faire respecter. Quels sont-ils aujourd'hui, Vanessa de Greve?
Bon, alors on a quelques minutes, donc je ne vais pas évidemment m'étendre.
Parce qu'on passera la parole aussi à Monsieur Médecin du Monde, qui a beaucoup de choses à dire en ce sens-là. Et voilà, mais Vanessa de Greve, pour jeter les bases.
Pour jeter les bases.
De ce non-respect, en quelque sorte, de la déclaration chez nous.
Alors, à la Ligue des droits de l'homme, on a un mémorandum où on explique chaque fois aussi tous les droits qui sont bafoués et tout ce que les politiques pourraient faire. Donc, il y a de nombreux exemples. Si on devait se limiter à trois grands axes importants aujourd'hui, je dirais qu'il y a d'une part les étrangers qui sont vraiment la cible de ce gouvernement. Hein, on n'arrête pas de le voir. On voit quand même un secrétaire d'État qui ici fait vraiment la guerre à la justice. Justice qui, elle, marque son indépendance de façon très importante, en même temps de façon totalement légale, parce qu'elle rappelle que la séparation des pouvoirs existe et qu'elle peut prendre des décisions qui ne confortent pas la politique en place, qui montrent qu'on a quand même un état de droit qui existe en Belgique, ce qui est de ce point de vue-là extrêmement rassurant. Mais c'est extrêmement surprenant de voir ces attaques répétées par rapport aux étrangers, spécifiquement là aussi aux migrants. On va y venir avec le parc Maximilien également. Et nous, c'est clair que là, par rapport aux attitudes du secrétaire d'État, mais aussi de Yann Embonne, on trouve quand même que là, il y a une responsabilité du Premier ministre qui doit être prise pour redéfinir cette politique migratoire, pour vérifier que dans les centres fermés ne sont plus expulsés aucun Soudanais. Là, on a eu la confirmation, donc, il y a quelques jours du fait qu'il ne pouvait plus y avoir de Soudanais qui soient expulsés du centre de Votem. Là, il y a vraiment eu des risques de traitement inhumain, dégradant et de torture qui ont été reconnus par la justice.
Ça, c'est un des derniers combats de la Ligue qui s'est vu couronné de succès, on va dire.
Couronné de succès, tout à fait. Le tribunal a en effet donné raison à la Ligue des droits de l'homme et l'État belge, en effet, a vu ses arguments rejeté par rapport à cela, parce qu'il estimait que la Ligue n'avait pas d'intérêt à agir. Et le tribunal a bien rappelé que face à l'urgence et en plus à la difficulté réelle dans laquelle se trouvent ces Soudanais qui n'avaient absolument aucune possibilité de faire valoir leurs droits, eh bien c'est normal qu'une organisation des droits fondamentaux s'occupe
de les aider.
Voilà, et donc là c'est extrêmement important. C'est un des points sur lequel la Ligue des droits de l'homme est. On a d'autres points sur lesquels on est extrêmement actif par rapport à ça, notamment ce qui se passe au parc Maximilien. En effet, on a vraiment voulu dénoncer ces rafles, parce qu'on est très très clair là-dessus.
Vous avez porté plainte.
On a porté plainte.
Quel genre de
nous.
Plainte est-ce qu'on peut déposer, contre qui, quand on est à la Ligue des droits de l'homme?
Bon, alors on a on fait énormément de recours en justice à la Ligue des droits de l'homme, donc ça va à chaque fois dépendre véritablement de qui est responsable et du cas. D'ailleurs, je remercie tous les avocats qui sont dans un pool d'avocats de la Ligue des droits de l'homme et qui nous aident à faire tous nos recours en justice. On fait des recours en justice, soit en effet en référé quand c'est en urgence pour obtenir à leur raison, pour essayer de faire suspendre, ou alors en urgence, sans que ce soit techniquement dit en référé, mais pour en effet éviter que les personnes soient expulsées. Donc ça, c'est par rapport aux étrangers. Devant le tribunal de première instance, soit devant son président précisément, soit on va tenter par rapport aux lois qui sont illégales à notre sens et qui sont contraires à la Constitution. Mmh. Et en fait, souvent, cette Constitution qui puise quand même son inspiration également indirectement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on va alors attaquer ces lois devant la Cour constitutionnelle. Si c'est des arrêtés réglementaires, là on va.
Concrètement,
alors là on aura 6 mois pour agir, on aura beaucoup plus de temps, on pourra attaquer. Donc là ça veut dire qu'on va faire une requête et qu'on va la déposer dans les 6 mois. Là, on a plus de temps. Ça veut dire qu'on a un temps pour agir, de réflexion, pour vérifier si nos moyens peuvent être.
Quelles sont les lois qui aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant?
Inhumaines.
Alors, je dirais qu'en matière d'étrangers, on a un certain nombre de recours pour l'instant qui sont en cours sur plein d'aspects, c'est-à-dire qu'on essaye de faire payer les migrants pour n'importe quoi pour éviter qu'ils puissent faire reconnaître leurs droits. Ici, on s'est battu par rapport aux expulsions. Un autre dossier sur lequel on est très actif, c'est tout ce qui est la justice. Je pense à la justice, je pense parfois à la prison, je pense aussi à la sécurité sociale.
Donc les conditions de détention.
Ouais, les conditions de détention notamment. Là, on a fait beaucoup d'actions là-dessus. En sécurité sociale, on a des services communautaires qui sont imposés pour que les gens travaillent gratuitement en échange d'allocations. On a le secret professionnel des travailleurs sociaux qui est complètement mis en cause aujourd'hui, où ces personnes qui aident en fait pas mal de personnes. Elles doivent dénoncer en effet des personnes si elles estiment qu'elles sont terroristes.
Oui.
Et donc vous imaginez ces personnes.
Qu'elles risqueraient de devenir.
Ah oui, avec des indices sérieux d'infraction terroriste qui ne sont définis dans aucune loi. Et donc là, on est en train, nous, de mettre en place vraiment une série de recours qui montrent aussi que le gouvernement actuel n'a pas de vision pour les droits fondamentaux, si ce n'est des restrictions budgétaires. Et donc, je dirais que c'est son premier... Le premier signal, c'est qu'il y a des restrictions budgétaires à faire. Et donc, finalement, les droits fondamentaux ne sont pas très importants. Et ça se voit particulièrement pour les travailleurs, pour les étrangers. Et alors aussi, je dirais, le terrorisme est utilisé à toutes les sauces. C'était le troisième axe qui était assez important à côté des restrictions budgétaires, c'est que le terrorisme, on l'utilise pour faire passer plus ou moins n'importe quoi, et je n'ai pas peur de le dire, mais on va supprimer, on va détricoter les fondements de notre état de droit. On va dire qu'il ne faut pas de juge, par exemple, pour aller plus vite, pour pouvoir garder quelqu'un plus longtemps en détention, même quand il n'y a pas de charge, alors que les juges disent qu'il n'y a pas besoin d'arriver à des délais si importants. Donc là, pour une fois, même la majorité a dit « Ok, on ne va pas accepter un délai de 72 heures de détention qui n'a aucun sens, on va garder un délai de 48 heures qui déjà, pour nous, n'est pas assez évalué. À la base, c'est le système de 24 heures qui est le système, la règle générale. Et donc, il y en a une série de mesures comme ça qui sont adoptées et qui sont prises parce que c'est la lutte contre le terrorisme. Et pour nous, la lutte contre le terrorisme, c'est essentiel, c'est capital, mais ça ne justifie pas
de
faire n'importe quoi. Et par ailleurs, pour nous, ces mesures ne permettent pas du tout de lutter contre le terrorisme, voire elles peuvent être contre-productives. Mm-hmm. Quand des travailleurs sociaux, et je m'arrêterai là après, mais quand des travailleurs sociaux ne peuvent plus demander à une personne, ne sont plus dans une relation de confiance avec, par exemple, un parent qui a connaissance que son enfant pourrait être radicalisé, et si ce parent sait que ce travailleur social va devoir directement appeler le parquet tout de suite, vous imaginez bien qu'il ne va jamais se confier au travailleur social. Et donc là, on va exactement arriver à l'effet inverse. Mm-hmm. Et donc pour nous, là, il y a un danger qui est, voilà, pour aujourd'hui, un véritable danger qui est cautionné par ce gouvernement et qui, par ces différentes mesures.
Alexandre Seron, ouvrons une grosse parenthèse sur le parc Maximilien avec tous les événements qu'on a connus ces derniers jours. Médecins du Monde a toujours porté sa voix. Médecins du Monde a toujours été sur place et a toujours dénoncé ce qui se passait là-bas. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous envie de dire et de proposer comme changement par rapport à ça?
Peut-être deux choses. D'abord, saluer le travail qui est fait par la Ligue, mais aussi toute une série d'autres acteurs, parmi lesquels aussi la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui fait un travail exceptionnel. Qui fait un travail exceptionnel pour dénoncer ce qui se passe au parc, ce qui se passe autour du parc, sur une base quotidienne. Et c'est fondamental de continuer à le faire, parce que le dénoncer, c'est en parler, c'est le visibiliser, et c'est finalement aller à l'encontre de ce que il vient d'être expliqué en termes de politique gouvernementale, où on veut éliminer un problème, mm-hmm. on veut le cacher, on veut l'enfermer, on veut l'expulser. Et évidemment, je pense que toute personne qui à un moment donné réfléchit se rendra compte que c'est pas la solution, ça ne résout absolument rien. Ça ne résout pas, par exemple, dans les dénonciations qu'on cherche à faire, les problèmes de santé. En tant que médecin du Monde, on fait autour du parc des consultations sur une base hebdomadaire. Aujourd'hui, nous voyons moins de migrants parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont plus confiance, parce que quand ils viennent de Somalie ou d'Érythrée, c'est pas toujours facile de faire la distinction entre les bonnes personnes avec lesquelles parler et celles dont elles doivent se méfier. C'est pas toujours facile non plus de retrouver une confiance à donner avec un citoyen qui va vouloir leur proposer un hébergement en sachant que quelques heures avant, elles ont dû courir dans tous les sens parce qu'elles sont pourchassées, par exemple, par les forces de police. Donc, premier élément, dénoncer. Et c'est très important de continuer à le faire. Et puis, le deuxième élément, c'est proposer. Puisque une chose est de se rendre compte de la situation, de la faire connaître, de la montrer, d'en parler, d'utiliser tous les canaux possibles ou imaginables pour dire « ça ne va pas », ce n'est pas une réponse. L'appareil qui est en train d'écraser des hommes, des femmes, des enfants, des mineurs qui sont autour du parc et qui cherchent à pouvoir se poser, à pouvoir peut-être se reposer aussi, évaluer comment continuer leur parcours ou s'installer, c'est très important de proposer. Et de proposer quoi ? Ben d'abord qu'une information juste leur soit délivrée. Une dame qui vient d'Érythrée, qui porte son enfant sur le dos, à qui on remet un document en flamand pour lui fixer un rendez-vous dans un service fédéral, ne va pas d'abord savoir comprendre le document. En plus, ce document, si je peux me permettre, est particulièrement mal foutu, et même pour vous et moi, quand on le regarde, on ne comprend pas ce que ça veut dire, indépendamment de la langue et aussi de la présentation. Et puis au final, on la met dans une situation impossible parce qu'on l'envoie quelque part dans le dédale bruxellois, retrouver à 8h du matin un endroit qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne pourra pas retrouver.
Impossible.
Et en ne le retrouvant pas, on lui empêche d'avoir accès à un mécanisme qui pourrait faire en sorte que sa voix soit au moins entendue, que son dossier soit éventuellement enregistré, peut-être traité, et le cas échéant dans le cas auquel je pense, peut-être même connaisse une réponse positive ou une solution, ou en tout cas une discussion qui permette à cette dame de comprendre ses droits, de comprendre aussi ce à quoi elle peut avoir accès sur le territoire belge. Dans les propositions, évidemment, il n'y a pas que l'information. Il y a aussi une série de services qui sont relatifs évidemment à des droits qui, aujourd'hui, ne sont pas respectés. Dans ces services, ben, évidemment, en tant que médecin du monde, on cherche à rappeler que ces gens qui ont connu un parcours extrêmement chaotique, souvent violent, dans les consultations, on voit que les gens souffrent de traumatismes physiques et psychologique, indépendamment d'infections pulmonaires, parce qu'évidemment, ils voyagent dans des conditions compliquées, mais il y a aussi jusque des blessures physiques qui sont liées au parcours et au fait de marcher, au fait d'être dans des conditions très compliquées, ou aussi liées à un peu ce jeu de chat et la souris auquel ces immigrants se retrouvent enfermés quand ils doivent essayer d'échapper à des tuniques bleues qui courent après eux dans la ville. Et en termes de propositions, ce que nous demandons et ce que nous appelons de toutes nos voix avec tous les acteurs avec lesquels on travaille, c'est qu'il puisse avoir une solution durable, humaine, sécurisée, humanitaire, sanctuarisée, certains diront, qui fasse qu'un lieu, un centre, puisse accueillir les migrants, dans lequel ils puissent se sentir en confiance, que ce lieu soit un lieu où ils puissent avoir accès à l'information et où ils puissent, en fonction des dialogues qu'ils auront avec différents acteurs, ça peut être la Ligue, ça peut être Médecins du Monde, ça peut être le CIRE, ça peut être des acteurs plus institutionnels aussi, pourquoi pas, ils puissent finalement réfléchir à comment continuer leur route, comment réfléchir leur route et un petit peu réorienter leur parcours aux besoins.
Alexandre Seron, c'est déjà totalement étonnant qu'un organisme comme Médecins du Monde doive faire ce travail-là à la place des institutions. C'est déjà presque une forme d'atteinte aux droits de l'homme que Médecins du Monde doivent dénoncer, défendre, soutenir les personnes au parc Maximilien, plutôt que faire appel finalement à l'État belge qui devrait remplir ce rôle-là.
Oui, et j'insiste, nous ne sommes pas les seuls. Il y a une multitude d'acteurs, d'organisations et aussi des citoyens. Et là, je pense que vraiment, il faut tirer un gros coup de chapeau. Il y a une mobilisation citoyenne qui fait encore, hier soir, qui fait en sorte que jusqu'à 200 personnes, qui plutôt que de rester dans la rue, dans des conditions compliquées, avec tout ce que ça peut signifier sans avoir accès à des sanitaires, par exemple, puissent être hébergées chez des individus comme vous et moi. Donc je pense que c'est exceptionnel de savoir ça, de se rendre compte de ça, qu'il y a
à Bruxelles, indépendamment, oui, en ce moment, à Bruxelles, vraiment une mobilisation. De matelas, canapés, chacun
voilà, donc
cherche à aider.
Finalement, la non-politique ou la non-réponse du gouvernement crée quelque chose d'un peu étonnant et de même positif. Il y a une mobilisation énorme qui se tient chaque jour. Alors oui, évidemment, c'est paradoxal d'avoir, mais c'est aussi notre rôle. On est un peu des lanceurs d'alerte, si je peux me permettre l'expression. Quand il y a des manquements dans le chef d'un État de droit par rapport à des choses qui ne sont pas respectées,
qui sont écrites ou qui sont dites, mais qui sur le terrain ne sont pas agies, ben voilà, alors à ce moment-là, oui, on reprend cette casquette de lanceur d'alerte et de dire ceci ne fonctionne pas. Il y a des Soudanais qui sont arrêtés, qui sont en menace d'expulsion, et de se rendre compte qu'avec la mobilisation des organisations et des citoyens, avec une mobilisation qui passe aussi par des actions qui sont intentées en justice, avec des actions qui passent jusque de la mobilisation physique à certains moments, où on est presque sur la frontière avec de la désobéissance civile à certains moments, où on est sur des actions plus médiatiques, où on est des actions très opérationnelles aussi. Finalement, on a mis en place avec, par exemple, MSF ou la Croix-Rouge de Belgique un hub humanitaire. C'est paradoxal. Pourquoi mettre un hub humanitaire à Bruxelles ?
Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est ?
Un hub humanitaire, c'est un point de contact, un point d'accueil, un point d'information où on cherche à faire en sorte que les migrants, faute d'une solution durable et permanente qui viendrait de l'État, hein, aujourd'hui, de façon transitoire...
Il y a un endroit où on peut leur répondre.
Un endroit physique. Où ils ont accès à des associations...
Qui se répand de bouche à oreille entre personnes qui en auraient besoin.
De bouche à oreille, oui, ou aussi parce que via la plateforme, l'information circule, via des réseaux entre migrants, l'information circule sur... il y a des consultations juridiques qui sont possibles, avec des avocats, avec des associations. Il y a des accès à des médecins, à des infirmiers, à des psychologues qui sont disponibles, qui sont ouverts et qui sont gratuits. Venez. Et puis il y a des possibilités d'être mis en contact avec des hébergeurs, avec de l'alimentation, par exemple, ou avec des vêtements si besoin est. Et donc, oui, c'est paradoxal que des associations et que des citoyens doivent faire ça quand l'État fait défaut.
Alors, Vanessa de Greffe, une réaction avant de donner la parole aux jeunes autour de cette table, Martin Hérin. Vanessa.
Oui, juste par rapport à, en effet, à ce qu'Alexandre dit, je trouve que c'est extrêmement grave ce qui se passe pour l'instant, et ça va plus loin que ça, parce que ce n'est pas seulement que l'État n'agit pas à la place, l'État n'agit pas, et donc en effet on voit cette solidarité qui est très très belle à voir, heureusement qu'il est là, mais plus que ça, il agit même contre toutes ces actions, et pour nous, de façon totalement contraire aux droits et aux droits fondamentaux qui sont quand même inscrits dans une constitution et dans, en effet, pas mal de traités qu'on a signés. Et donc, quelques exemples très rapidement, l'État va en effet mettre des quotas totalement illégal. Je veux dire, l'État a été mettre comme des quotas d'arrestation dans le parc Maximilien. Je veux dire, pour l'instant, il y a encore une... Enfin voilà, on a pu en débattre pas mal, mais je veux dire, c'est quand même incroyable de se dire qu'on en est là. L'État est en fait des collaborations avec une dictature soudanienne pour l'identification de Soudanais dans un parc. Je ne sais pas si vous imaginez où on en est.
Venez voir s'ils sont chez vous et si vous voulez la reprendre pour éventuellement les torturer.
Voilà, donc pas de problème de collaborer avec une dictature en place, quoi. Aucun souci. L'État poursuit des citoyens qui se sont levés dans un avion parce qu'ils étaient choqués par des expulsions volontaires qui avaient lieu. Il poursuit les citoyens qui se sont levés par solidarité. Vous savez, ça prend des proportions quand même incroyables. Et alors, en plus, on a aussi, par rapport à ce que Alexandre disait, la connaissance des droits des personnes, nous, on entend aussi, en effet, des situations où des personnes signent en fait d'expulsion volontaire en ne comprenant absolument pas de quoi il s'agit. Et donc là, pour nous, à notre sens, si en plus maintenant, si un tribunal, chaque fois qu'un tribunal va reconnaître en effet qu'une expulsion ne peut pas avoir lieu, donc il y a une astreinte en général qui est prévue, là pour Liège c'était de 20 000 euros, si jamais en cas d'expulsion pour l'État belge, si pour nous l'État belge va à l'encontre de ça, expulse ces personnes, pour nous en effet là c'est une responsabilité collective du gouvernement qui est visé. Donc soit le premier réagit très très vite, mais pour nous on ne peut plus là les exemples s'accumulent tellement que ça montre à quel point l'État se mobilise contre toutes ces actions, ce qui est extrêmement extrêmement inquiétant. Il est pour nous hors la loi.
Oui. Martin Hérin, vice-président de l'APNU, Association pour les Nations Unies, APNU Jeunes. On parle de mouvement citoyen. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un réel mouvement jeune ? Est-ce que l'APNU qui a été créé il y a 5 ans environ a vraiment une action de poids? Est-ce que vous voyez que les jeunes autour de vous ont envie de se mobiliser pour défendre les droits humains?
Alors oui, tout à fait. Pour remettre ça un peu en contexte, non, on s'est bien rendu compte, en effet, que la DUDH est née d'une histoire et d'un contexte particulier. Personne ne remet ça en doute. Donc forcément, le texte relève d'une conception particulière du monde. Et malheureusement, c'est vrai que le contexte global et local montre que l'application de cette déclaration n'est pas certaine nulle part, ni ailleurs, ni ici. Mais on est persuadé cependant que cette contestation, elle ne doit pas servir à remettre en cause la valeur de ce texte. Comme le disait François de Smet, et je trouve ça très bien dit, la DUDH, c'est un phare et pas un rempart contre la barbarie. On est persuadé en tant que jeune, au sein de la PNU, que la DUDH est un exercice vivant et qu'en ce sens, on voulait se saisir de ces bientôt 70 ans de la déclaration pour essayer de promouvoir auprès des jeunes les valeurs qui sont promues au sein de cette déclaration. Car, de nouveau, c'est vrai que certaines valeurs n'y sont pas, comme on l'a dit, les spécificités culturelles de certaines régions du monde, mais les valeurs essentielles, universelles, y sont. Dans ce cadre-là, on a lancé une campagne avec la PNU. Cette campagne est divisée en trois piliers.
Mmh. Une campagne d'action pour sensibiliser les jeunes
exactement.
Dès maintenant.
La campagne a été lancée officiellement le 18 septembre 2017. Donc là, elle est en plein lancement. Donc on a fait d'abord un appel à projet auprès des jeunes. Mmh. Donc il y a trois types d'appels à projet. D'abord, on a lancé des appels auprès des établissements d'enseignement primaire et secondaire. Ensuite, au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également dans les associations de jeunesse. On essaie aussi de viser les maisons des jeunes, les mouvements d'organisation, les centres pour délinquants juvéniles, etc. Et le but est que chacun de ces jeunes puisse se saisir d'un des articles de la déclaration et, de manière artistique, essaye d'exprimer quelles sont ses réticences vis-à-vis de cet article. Mmh. Et d'essayer de trouver une solution, de trouver un moyen de le rendre plus effectif dans la vie de tous les jours.
Donc tout ça pour faire réfléchir très profondément à ce qu'est la déclaration.
Exactement. Donc le but est tout d'abord de permettre à ces jeunes de se pencher sur ces articles qui sont malheureusement souvent inconnus ou très peu connus des jeunes. Et non seulement se pencher sur ces articles, mais alors en profondeur réfléchir sur leur signification et le sens qu'ils ont dans notre vie de tous les jours. Alors ça, c'est pour le premier pilier. On a également un second pilier dans lequel on organise des activités pédagogiques, culturelles, informatives, des conférences, on participe à des émissions comme celle-ci, et voilà. Et le troisième pilier, alors, c'est un événement citoyen à la fin de la campagne, durant lequel sera remis un prix pour le meilleur projet, pour la meilleure défense d'un des articles. Et voilà, et dans ce cadre, je me permets maintenant d'inviter nos auditeurs, car le 25 octobre, à la Cité Miroir à Liège, aura lieu la présentation de la campagne.
Oui, ouverte à tous.
Ouverte à tous.
Mmh. Et mon Premier ministre
Invitons-le s'il nous écoute.
Monsieur Michel, vous êtes attendu.
Cité Miroir à Liège, mercredi
25 octobre, de 14 à 18h. D'accord. Pour permettre aux différents acteurs de se rencontrer, aux différents partenaires.
Il y aura des débats, des rencontres.
Des débats, des rencontres. Et c'est où tout le monde est convié pour pouvoir parler de la déclaration, pouvoir parler de ces campagnes.
Mm-hmm. Très bien, Martin. Quel âge avez-vous, Martin ?
J'ai 22 ans.
22 ans. Combien êtes-vous à la PNU jeune ?
On est une dizaine.
Une dizaine. Du même âge, une vingtaine d'années.
Ouais, tous des étudiants, des jeunes travailleurs, entre 20 et 28 ans, je pense.
Et comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, les gars, là, il va falloir créer la PNU jeune, il va falloir que je rejoigne la PNU jeune, mm-hmm. Comment avez-vous connu ce mouvement-là? Et pourquoi vous vous êtes dit, c'est important les droits de l'homme, en fait? Parce qu'on peut rester chez soi, on peut aller boire des bières, on peut faire autre chose de sa vie.
C'est vrai. Je pense que, premièrement, ça a été un groupe d'étudiants assez focalisé déjà sur le sujet, donc on va dire des juristes et des étudiants en sciences politiques, qui se sont dit, voilà, concrètement, nous, on a ces cours-ci, on a ces trucs, on participe à des conférences, mais qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau, puisqu'on n'a pas encore l'expertise de fin d'études, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on a? Et on s'est dit, voilà, on peut se rejoindre à la PNU, qui existait déjà, créer une section jeune, et alors essayer de relayer leur message et de participer avec eux, de toucher un public que peut-être eux ne peuvent pas toucher, car ils sont forcément plus vieux, entre guillemets, donc dans un cercle assez différent. Et nous, avec nos milieux universitaires et de jeunes travailleurs, on peut aller toucher un autre public. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, c'est peut-être nous ce qu'on peut apporter à notre niveau.
Vanessa Degreff, Alexandre seront... Voilà, la jeunesse, on en a vraiment besoin aussi. Ça sera peut-être le mot de la fin de l'un de vous. Ne vous battez pas.
Bon, en tout cas, pour la Ligue des droits de l'homme, c'est une très bonne nouvelle que des jeunes, en effet, montent cette organisation-là. Et on sera ravis de collaborer avec eux. Et sans doute qu'ils rejoindront d'ailleurs ceux qui sortiront peut-être de l'organisation des jeunes, peut-être arriveront à la Ligue des droits de l'homme.
C'est peut-être le début d'une longue carrière dans ces actions-là, évidemment.
On a besoin impérativement de
jeunes. Alexandre Seron, le mot de la fin.
Peu importe l'âge, on a besoin de gens qui défendent les droits à tout moment, sur tout le territoire et même au-delà. Et donc, bienvenue aux jeunes et aux moins jeunes, et que ce soit autour du parc ou ailleurs, on compte sur vous, parce que c'est avec vous qu'on réussira à les pousser un peu plus loin que ce qu'on ne peut déjà faire, et on le fait déjà bien, mais on peut encore le faire mieux.
J'espère que l'appel est entendu. On rappelle donc 25 octobre, c'est mercredi prochain, à la Cité Miroir de Liège, entre 14 et 18 heures. Venez rejoindre les jeunes et les moins jeunes de la PNU. Et puis peut-être pour fêter la vieille dame 70e anniversaire, il y a un site internet pour toute info, www.70andudh.be. Merci à tous les trois d'avoir été là aujourd'hui avec nous.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine pour débattre d'un autre sujet. Bonsoir à tous.
En quête de sens
sur la première.